La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Un plan d'adaptation pour préparer la France à un réchauffement de 4 degrés, voici ce que lance aujourd'hui notre cher gouvernement. Alors moi, le réchauffement, je trouve ça drôlement pratique. Hein. Pour tout vous dire, je suis un petit peu frileuse, donc ça va me remettre de bonne humeur dès le matin. Une chicorée, du pain beurré et 4 degrés le plus, moi je vois pas pourquoi il y aurait besoin de s'adapter. Quoi ? Ah d'accord, j'avais rien compris, donc je viens d'avoir de la régie dans l'oreillette, et apparemment c'est mauvais signe en fait, le réchauffement de la planète. Donc j'imagine que les gens n'aiment plus sortir. Hein ? Des catastrophes écologiques ! Vous me dites que ce changement climatique présente des risques. Alors oui, d'accord, on risque de croiser des Allemands en claquettes chaussettes et des mecs torse nus beaucoup plus tôt dans l'année, mais à part ça, ça passe, non ? Alors, on dit encore dans l'oreillette que ce réchauffement risque de faire monter les eaux et d'anéantir les zones côtières. Mais après tout, qu'est-ce qui les empêche de vendre leur maison et d'aller ailleurs à ce moment-là ? On me dit que personne ne voudra l'acheter, mais je suis sûr que les requins citrons, ils ont un PEL prêt pour ça. Pour celles et ceux qui se demandent, le requin citron, ça existe, et il s'appelle comme ça parce qu'il est un peu jaune, genre ça l'aide à se camoufler dans le sable. Heureusement qu'il n'a pas été découvert à Marseille, on est passé à ça du requin pastis. Bon, ce plan d'action du gouvernement, il est d'ores et déjà jugé insuffisant, comme à chaque fois que le gouvernement essaye de prendre des mesures vaguement écologiques. Ça rend à peu près bien sur le papier, mais dans les faits, on ne sait ni comment, ni par qui seront faites ces mesures, ni comment elles seront financées par ailleurs. Jacques Chirac, avec tout le mal que je pense de cet affreux bonhomme, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où ils ont voulu le rendre cool parce qu'il avait fraudé le métro et tout, genre ils l'ont mis sur des t-shirts. Bref, Chirac à l'époque avait dit « notre maison brûle et nous regardons ailleurs » et moi je me dis qu'il était visionnaire, peut-être bien qu'il faut cramer des trucs pour qu'enfin des mesures de rupture se mettent en place histoire que d'ici 2050 le monde soit peuplé d'autre chose que des riches PDG blancs dans leur bunker anti-atomique climatisé à la grâce de Dieu. Au menu ce soir, un Zoom avec Mélina et Valentine, donc présidente et rédac-chef du journal étudiant La Gazelle. Donc ce sera un Zoom signé Éléonore. Gaëlle va nous présenter un flash info, Fabien nous servira une petite chronique actu, et Simon viendra clôturer l'émission avec sa chronique humoristique. Mais tout de suite, le grand entretien de la matinale. Donc Francesca reçoit Jonathan du collectif Juste des Coloniales TCEDEC, donc pour parler antisionisme, antisémitisme et enjeux des coloniaux.
Alors que moi, en plus, non seulement je suis pas antisémite, j'ai remarqué, je suis même pas antisioniste, moi. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'après le génocide de la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, les Juifs, ils aient demandé à avoir leur propre pays. Pour moi, c'est complètement logique. Juste ce que je comprends pas, c'est pourquoi à l'époque, on leur a pas dit, bah bien sûr, on va vous donner l'Allemagne. Voilà, ça, pour moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire... Je ne comprends pas que ça leur ait pas sauté aux yeux que qui casse paye. Ouais. En plus, bientôt à Berlin, on a prévu de faire un mur. Là, pourrait faire toutes les lamentations que vous voudrez contre le mur.
Alors, cet extrait de Thomas VDB, il a le mérite de poser une bonne question. Pourquoi la création d'Israël s'est-elle faite au détriment du peuple palestinien ? Donc, pour y répondre, on reçoit Jonathan du collectif TCEDEC, interviewé par Francesca.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Delila, merci. Bonjour Jonathan.
Bonsoir.
Oui, bonjour, bonsoir.
Ouais, pardon. Je suis perdu bonsoir, dans votre matinée de 19h.
C'est vrai. Alors, Jonathan, vous êtes membre du collectif TCEDEC, un mouvement juif décolonial fondé en 2023. TCEDEC lutte contre le racisme d'État en France et milite pour la fin de l'apartheid et l'occupation en Israël-Palestine. Le collectif se distingue par une approche décoloniale du judaïsme et un engagement contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Évidemment, donc ma question va être en lien avec l'extrait qu'on vient d'entendre. Directement, c'est pourquoi la création d'Israël s'est-elle faite au détriment du peuple palestinien ?
Wow, c'est costaud d'entrée comme question. Ouais. Je voulais rajouter aussi qu'on lutte contre toutes les formes de racisme depuis la France, donc également l'antisémitisme, le racisme anti-asiatique et de manière générale, en fait, en soutien à la plupart des mouvements sociaux dans une idée d'émancipation. Alors, pourquoi ? Il y a des raisons fondamentales et simples à ça. Avant tout, je pense qu'au lendemain, de l'extermination massive du génocide qui a touché les personnes juives et tziganes, beaucoup n'ont pas forcément eu le choix. Et que la terre d'Israël, en fait, il faut savoir que la terre d'Israël est apparue comme un refuge. en dehors du fait que le sionisme était une idéologie, donc du coup, coloniale et nationaliste, qui était déjà assez imprégnée, pas forcément majoritaire comme elle l'est aujourd'hui au sein des communautés juives françaises, je précise. Et qu'en fait, tout simplement, je pense que quand vous avez survécu à une expérience comme la Shoah, en Hongrie, dans un pays comme l'Ukraine, où quasiment tout le monde a été exterminé, ou tout simplement que vous viviez en Allemagne et que vous avez survécu, vous n'avez pas forcément envie de rester dans ces pays-là. De même que certaines personnes, en fait, suite à la création de l'État d'Israël, n'ont pas forcément eu le choix de quitter les pays où vivaient les Juifs, et Juifs dites Mesraïm ou Sépharad, dans les pays arabes. Le problème, c'est pas uniquement la situation géographique, c'est qu'elle a été imposée par des grandes puissances, en particulier les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'URSS à l'époque, et qu'elle s'est faite, effectivement, comme vous l'avez dit, au détriment du peuple palestinien. On parle de gens qui sont de base des réfugiés, ça c'est indéniable. Et encore une fois, nous quand on dit que, quand on entend un slogan de la mer au Jourdain, ça ne veut pas dire qu'on a envie de jeter toutes les juives et les juives à la Seine. C'est un projet de coexistence politique entre les différentes minorités. Et le fait est que l'État colonial, mais c'est pas le seul, hein, il y a d'autres États qui sont basés sur des fondements nationalistes, raciaux, coloniaux, avec des déportations forcées, parfois des exterminations de masse, comme ça a été le cas sur le continent sud-américain, comme ça a été le cas d'une certaine manière en Australie ou au Canada. En fait, a reproduit finalement les schémas classiques des États, de ce qu'on pourrait appeler les États-nations qui ont été édifiés au XIXe siècle dans une idée nationaliste. Il faut savoir que Israël a été donc le choix qui a été donc un choix qui s'est défini de manière assez logique après la Seconde Guerre mondiale, en trouvant un justificatif qui peut être d'ordre messianique, religieux ou parfois laïque, hein. Il faut le savoir, hein. Il y a un arc politique et un spectre très large des judaïtés qui s'y sont et des judaïsmes qui s'y sont retrouvés, mais ça n'a pas toujours été le cas. Certaines solutions, le sionisme n'a pas toujours préconisé le fait d'aller s'installer en Israël. En tout cas, pas de cette manière-là.
Et alors, dans les débats publics, alors, l'antisionisme, donc c'est aussi le sujet de l'interview, est parfois assimilé à l'antisémitisme.
Oui.
Alors, comment, justement, Tzedek définit-il ces deux notions ?
Alors, on va faire très simple. Le sionisme, je l'ai dit là dans l'introduction, c'est une idéologie coloniale, nationaliste, inspirée par des préceptes suprémacistes des États fondés par des bourgeois en Europe à la fin du XIXe siècle. Nous sommes anticolonialistes, donc nous considérons que l'antisionisme, c'est lutter contre cette idéologie. L'antisémitisme est un racisme dont le terme apparaît pour la première fois à la fin du XIXe siècle. Il est conceptualisé notamment par des pan-germanistes et des nationalistes allemands pour revendiquer leur haine des juifs, en étant aussi inspiré par des philologues ou des auteurs et des penseurs, enfin entre guillemets penseurs français, dont certains ont encore leur nom partout en France, par exemple Édouard Drumont, qui caractérise au début les juifs et les populations musulmanes comme sémites pour décrire des peuples qui seraient inférieurs. Et donc l'antisémitisme, en fait, est un terme pour désigner aujourd'hui, enfin qui était mobilisé aujourd'hui pour désigner un racisme envers les juifs, ça n'a rien à voir. Ce sont deux idéologies différentes, et ce que je voulais rappeler quand même, c'est que les premiers opposants au sionisme sont les juifs et les juifs eux-mêmes, et que vous avez aussi tout un tas de sionistes qui ne sont pas juifs. Par exemple Donald Trump.
D'accord. Et donc, justement, est-ce que vous pensez que dans certains contextes, alors c'est vraiment pour pousser, dans certains contextes, on peut dire que vous pensez que l'antisionisme peut masquer des sentiments antisémites ?
Mais plus que des sentiments, des fois c'est un terme qui a été utilisé, pour ne pas revendiquer son antisémitisme. Je peux vous donner un exemple assez récent, par exemple celui de Dieudonné et Alain Soral, qui sont des antisémites notoires, qui ont utilisé ce terme-là uniquement pour masquer leur antisémitisme. Mais historiquement, il y en a eu d'autres. Staline, sur la fin de son règne, par exemple, a mobilisé cet argument-là. Ça a été le cas pour certains nationalistes arabes aussi, par exemple en Syrie ou en Irak, pour légitimer des pogroms. Nous, on ne nie pas que certaines personnes utilisent le terme d'antisionisme, en fait, pour masquer leur antisémitisme, que certaines personnes sont aussi parfois confuses sur l'emploi de ces deux termes, aussi parce qu'à longueur de journée, les médias vous matraquent que le sionisme et les judaïtés, c'est forcément la même chose, et que l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose, ce qui produit aussi consciemment ou inconsciemment de l'antisémitisme.
Oui. Alors, justement, j'ai pu regarder quelques interviews où vous étiez présent, Yonatan, et vous avez été menacé, harcelé par des ultra-sionistes. Est-ce que cela signifie que certains, justement, ne comprennent pas votre démarche.
Oui, alors des sionistes ou également des militants d'extrême droite, enfin, c'est quelque chose d'assez récurrent si on décide d'apparaître publiquement avec, avec notre ligne politique. Oui,
mais jusqu'à la menace.
Jusqu'à la menace, oui, oui, bah, notamment suite à l'interview avec Guillaume Meurice. Bon, moi, je pense que c'est... À titre personnel, je m'y attendais. Moi, je suis aussi militant antifasciste, donc c'est des choses auxquelles on peut être confronté, surtout si on décide d'apparaître dans la sphère publique. Il y a effectivement un sentiment d'incompréhension pour des gens qui ne sont pas forcément formés politiquement. Mais les techniques de harcèlement en ligne, ce sont déjà des gens qui sont convaincus. Et elles, dans l'immédiat, je ne vois pas comment est-ce que j'arriverai à les convaincre, en fait. C'est un petit peu compliqué, me paraît-il.
Bah alors, justement, comment votre message est-il perçu au sein de, bah, des communautés juives et dans la société française en général, puisqu'on parle bien en France?
Moi, je dirais que c'est un bilan quand même qui est plutôt positif, dans le sens où en fait, on part de rien, on s'imaginait être un groupuscule comme un autre, et finalement, là, on oscille entre 200 et 300 membres, ce qui est pas mal en un an et demi pour une communauté qui, enfin, pour une communauté qui est quand même aussi réellement une minorité en France. Hein, je veux dire, il n'y a pas un million de juives et de juifs en France. Ce qui a été surprenant, c'est qu'en fait, entre notre première apparition... Et le 7 octobre, il y a déjà eu des demandes pour nous rejoindre, notamment pour se retrouver dans un cadre en fait, où on peut faire des fêtes juives, où on peut continuer à, pour les personnes qui sont croyantes et croyants, ou pratiquantes, ce qui n'est pas forcément mon cas, se retrouver ensemble. Au sein des communautés en France, bon, bah, clairement, on est ultra minoritaire, très très mal vu, très très mal perçu. Ceci dit... On se rend compte aussi qu'on a de plus en plus de sollicitations qui ne sont pas seulement d'ordre médiatique et de personnes non juives pour nous rejoindre. Et donc, je pense qu'on est quand même en train de créer modestement une dynamique. Bon, après, avec les moyens qu'on a et un rapport de force qui est très disproportionné. Et qu'en tout cas, au sein de l'antiracisme, au sein de la gauche dite entre guillemets radicale, donc tout ce qui va grosso modo de la France insoumise à l'ultra-gauche autonome, on est plutôt hégémonique, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, on est en phase de l'être.
Et alors justement, c'est une satisfaction du coup de savoir que bah, le collectif reçoit des nouvelles adhésions. Et enfin, ce que ça signifie pour vous, c'est un petit peu, est-ce que j'ai envie de poser la question, vous auriez réussi si quoi?
Ah, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, enfin, est-ce qu'on aurait eu autant de sollicitations? C'est une bonne question. Je pense que ça a peut-être permis à des personnes de prendre des décisions un peu plus rapides, parce que malheureusement... On a malheureusement, en fait, les gens se sont beaucoup crispés et positionnés, et entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais campés un petit peu sur leur position d'un côté et de l'autre. Peut-être que ce serait pas allé aussi vite. Mais après, je préfère ne pas spéculer, parce que je me rends compte qu'on recevait déjà beaucoup de messages positifs. Peut-être que ça a facilité certaines personnes à vouloir nous rejoindre.
D'accord.
On va juste faire une petite pause musicale et on va se retrouver juste après. Some things about this woman, this Anita. Anita, don't fear you, no one can control Anita. Need to be in charge. Anita, need to teach you the recipe. Anita, need to recite.
I need to reach you ASAP.
c'était Anita No de The Do. Et tout de suite, on va se retrouver pour la suite de notre grand entretien avec Jonathan du collectif TCDEC et toujours avec Francesca.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors nous voilà de retour. Alors Jonathan, je vais reposer du coup la question par rapport à le fait de recevoir des nouvelles adhésions. Donc c'est aussi signe, en tout cas, enfin c'est ce que ça démontre aussi naturellement, un signe d'un intégré grandissant par rapport à votre collectif. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour vous ?
Alors à la fois je pense un échec qui n'est pas forcément de notre fait mais qui est plus du cadre de la gauche ou des forces progressistes parce que comme je l'ai dit on est quand même extrêmement minoritaire au sein des communautés juives avec notre vision mais un sentiment de satisfaction à la vitesse à laquelle les choses vont quand même. Après voilà moi je pense qu'il faut faire attention à l'effet feu de paille, le sentiment d'autosatisfaction dans la lutte pour moi il faut toujours le remettre en cause.
Oui tout à fait je comprends. Alors ma question... La nouvelle, donc ça va être l'extrême droite affirme aujourd'hui défendre les juifs, alors que l'histoire nous rappelle son rôle dans l'antisémitisme et les persécutions. Comment expliquer cette apparente contradiction ?
Alors, il y a plusieurs. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, le premier, c'est le premier qui paraît, je pense, le plus évident, c'est de se vouloir, se racheter une conscience et surtout se déresponsabiliser, hein, ce qui n'est pas seulement le cas de l'extrême droite, mais de manière générale des populations blanches et des États européens vis-à-vis de ce qu'elles ont fait hein, par le passé. Il y a aussi des connivences qui sont assez logiques finalement entre l'extrême droite israélienne qui est actuellement au pouvoir. Et la dynamique de fascisation mondiale, hein, que si vous voyez par exemple les personnes qui soutiennent Netanyahou, ça peut être des anciens chefs d'État comme Bolsonaro, ça peut être Trump actuellement, ça peut être Modi en Inde, ça peut être Orban. Enfin, la plupart des leaders d'extrême droite en fait aujourd'hui sont aussi sur une ligne qui n'est plus exactement la même que Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont d'une idéologie identitaire. Qui reste profondément nationaliste, qui reste profondément antisémite, mais pour qui l'islamophobie est déjà et la xénophobie sont une priorité, ainsi que la transphobie, hein, ça, la nouvelle figure de fabrique d'altérité qui serait des espèces de menaces d'ennemis internes et intérieurs, etc., se repose beaucoup autour de ces personnes-là, ce qui ne veut pas dire que l'antisémitisme n'est plus du tout à l'ordre du jour de l'extrême droite, hein, il suffit d'aller sur n'importe quoi, hein, le profil d'un groupe Facebook ou de regarder par exemple le profil de certains collaborateurs ou assistants parlementaires pour se rendre compte qu'on a affaire à des antisémites purs et durs, hein, notoires. La manière avec laquelle par exemple Zemmour a tout simplement voulu gracier Pétain ou en tout cas nier sa part de responsabilité dans l'extermination des juifs en France me paraît assez évidente. De manière générale, si vous regardez les différentes tentatives d'attentats qui ont été déjouées ces dernières années, parce qu'il y en a quand même très régulièrement, certaines ciblaient autant des personnes juives que des personnes musulmanes, et pour le coup, elles sont le fait de personnes d'extrême droite.
C'est vrai. Et alors, justement, on parle du gouvernement, des politiques, parce que notre président aussi se dit défendre justement les juifs. Est-ce que, selon vous, c'est juste ou c'est quand même rentré dans une... vous pensez que c'est rentré dans une stratégie politique maintenant ?
Absolument. Bon, déjà, en fait, on se sert de l'antisémitisme pour faire appliquer des agendas réactionnaires, par exemple réprimer les manifs de soutien envers la Palestine, ce qui crée une confusion totale. De l'autre, des cas édifiant d'antisémitisme pur et dur, entre guillemets, canal historique, hein, pas le nouveau, vrai. Oui. On en a tous les jours. Ce qui s'est passé avec les étudiants de l'Uni, qui se retrouvent, on se rend compte qu'en plus, c'est pas des épiphénomènes, mais presque un phénomène de masse, hein, chez les militants de l'Uni, bon, qui ont toujours une porosité idéologique avec l'extrême droite, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais qui se retrouvent à faire des saluts nazis, ne suscite pas l'intérêt des médias mainstream outre mesure. Ce qui veut dire qu'en fait, là, on est quand même face à des cas où je pense que n'importe quelle personne à gauche qui se serait permis de faire ça, si elle appartenait par exemple à la France insoumise ou qu'elle serait proche des milieux antiracistes, serait mise en épingle, virée de manière très légitime. Mais finalement, des cas d'antisémitisme et malheureusement de toute forme de racisme, hein, parce que nous on hiérarchise pas les formes de racisme, vous en avez absolument tous les jours. Et je rappelle aussi que Emmanuel Macron a lui aussi franchi des caps qui n'ont jamais été faits par le passé en réhabilitant Pétain. dans un premier temps. De l'autre, avec Gérald Darmanin, qui vous fait des citations de Bainville et de Maurras, qui sont des auteurs antisémites, en voulant les réhabiliter. De même, par exemple, aussi que l'auteur Céline. Donc, à un moment, quand on veut lutter contre l'antisémitisme, on le fait concrètement, et on le fait aussi contre toutes les formes de racisme, sans les hiérarchiser et sans vouloir, en instrumentaliser une forme. Encore plus si c'est... si c'est pour s'en prendre à des musulmans ou désigner la gauche de rupture ou les populations racisées comme étant les productrices et producteurs d'antisémitisme, en fait.
Quels sont les défis de TZEDEC aujourd'hui ?
Alors déjà, essayer d'imposer une autre voix juive et la rendre hégémonique, je ne vais pas vous cacher que c'est, c'est une mission un petit peu difficile, on s'y attelle, mais... c'est pas propre à TZEDEC, hein. De toute façon, dans une dynamique de droitisation totale avec aussi peu de possibilités d'ouverture médiatique, ça va être un petit peu compliqué. Après, il y a l'idée aussi de refaire entre guillemets communauté nous-mêmes, c'est-à-dire que TZEDEC, pour le moment, les gens le voient beaucoup comme une organisation politique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, on a un ciné-club qu'on est présent maintenant, qu'on est présent dans plusieurs villes de France, qu'on a déjà organisé des concerts avec d'autres organisations politiques et parfois nous-mêmes, et qu'en fait l'idée c'est aussi de devenir un mouvement qui est non seulement militant mais aussi culturel, par exemple. Peu de gens le savent, mais on a aussi une yeshiva avec des personnes qui étudient du coup la Torah et le Talmud pour celles et ceux qui sont croyantes, et aussi essayer de perpétuer un héritage qui s'est un peu perdu, c'est-à-dire qu'en fait on parle souvent de juifs comme étant forcément liés au judaïsme, mais les judaïtés, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Et nous, on veut perpétuer une tradition révolutionnaire qui est liée à l'antifascisme, qui est liée à des figures anticolonialisme, avec des mouvements, par exemple, comme le Bund en Europe de l'Est. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Internet pour regarder. Des figures comme Abraham Sarfati, comme Ilan Halevi. Et le principal défi, déjà, ça va être de se maintenir là où on est, parce que c'est déjà pas mal. Et puis après, essayer de grossir numériquement et de proposer de plus en plus d'initiatives et peut-être arracher un jour un média mainstream ou deux pour pouvoir diffuser notre parole.
Voilà un dernier message que vous souhaitez justement adresser à celles et ceux qui nous écoutent. J'ai présenté tout à l'heure un petit peu qui était le collectif. Si vous voulez rajouter quelque chose et expliquer à nos auditeurs auditrices ce que votre mission.
Alors, pour faire simple, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que le sionisme n'était pas forcément pour aller dans un État d'Israël. On parle juste de l'État d'Israël lui-même, hein. C'était pas forcément le sionisme. Je tiens à faire un petit petite précision, excusez-moi. Écoutez, nous, c'est simple. On part du principe qu'en fait, on est un collectif antiraciste et anticolonialiste depuis la France, que l'histoire de tous les racismes, en fait, est intimement liée, c'est-à-dire que pour nous, elle commence avec l'année 1492 et ce qu'on appelle la Reconquête, en référence à un certain... vous vous doutez la référence d'un certain homme politique qui a utilisé ce nom, avec le début de la racialisation des populations musulmanes et juives qui ont été expulsées d'Espagne, et le début de la colonisation, puis le 19e siècle, avec la racialisation au sens pseudo-biologique et civilisationnel du terme. Mmh. Et du coup, nous, ce qui est important, en fait, c'est de dire qu'on est contre toutes les formes de racisme, qu'en France, elle demeure profondément structurelle, parfois étatique et systémique, dans le cadre de l'islamophobie, de la négrophobie, des personnes qui se font tuer par la police, des personnes qui se font par exemple tuer par la police, des contrôles au faciès. C'est aussi le cas pour l'anti-tsiganisme, et que notre pays a encore des colonies, notre pays est le deuxième vendeur d'armes au monde, et que tout ça rentre dans une même dynamique qui s'inscrit aussi dans un truc qui est pseudo-civilisationnel. Et pour conclure, je dirais quand même que la civilisation, du coup, judéo-chrétienne, n'existe pas. Les pogroms en Europe de l'Est, c'est l'Occident. La Reconquête, c'est le début de l'Occident. Auschwitz, c'est l'Occident. Et du coup, on est là pour contrer ce récit et ce narratif. Et on serait ravis d'avoir des discussions avec tout un tas de personnes, que ça intéresse, qu'elles soient juives ou pas. Il faut amplifier le combat contre le racisme, encore plus avec ce qui nous attend et qui n'est pas forcément quelque chose de reluisant, pas seulement en France, mais au niveau mondial.
D'accord. Et où est-ce qu'on peut suivre justement votre travail ? Tout à l'heure, vous parlez quand même de plusieurs démarches que vous aviez. Où est-ce qu'on peut suivre et s'informer sur les actions ? Site web, réseau, vous avez, je pense...
Alors, on est partout. Vous pouvez aller sur notre site internet tzedec.fr, sinon sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram, Twitter, maintenant... aujourd'hui, Twitter, X, pardon, je suis vieux, X, ouais. Blue Sky, Masto, bientôt TikTok. On espère faire des vidéos de vulgarisation pour rendre notre propos encore plus accessible. Sur le blog de Mediapart, pour les personnes un peu plus âgées qui sont assidues de la presse de gauche. Et sinon, un petit peu partout, il y a des événements politiques, y compris même sur d'autres sujets que l'antiracisme. Normalement, vous pouvez trouver des personnes de TZEDEC.
D'accord. Merci Jonathan.
Eh ben, merci beaucoup Francesca d'avoir mené cette interview et merci beaucoup Jonathan donc, du, coup, du collectif TSEDEC.
Merci
et,
beaucoup.
On va tout de suite lancer le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Car un Flash Info ne serait pas un Flash Info sans évoquer la guerre au Proche-Orient, commençons par là. Après avoir suspendu l'aide humanitaire, Israël s'attaque à présent à la seule ligne électrique reliant Israël à Gaza. Une ligne hautement stratégique, puisqu'elle alimente notamment la principale usine de dessalement d'eau, impactant directement l'accès à l'eau potable de 600 000 civils. De son côté, Ubisoft a aujourd'hui repoussé son procès pour harcèlement moral et sexuel. La raison ? Beaucoup trop de dossiers accablants et surtout, pas le temps de tout lire. À croire qu'ils ont appliqué la même méthode que pour le monde du jeu vidéo, du contenu bâclé et une toxicité omniprésente. Tant qu'à faire, filons cette métaphore en parlant d'une mise à jour « justice » qui prend un temps infini à se télécharger. Enfin bref, pour ceux qui pensaient qu'Ubisoft était spécialiste des mondes ouverts, surprise, la culture toxique était elle aussi en accès libre. Toujours dans l'univers du gaming, la Fashion Week nous a offert un crossover inattendu. Koberni a voulu rendre hommage aux gamers, et disons que ça ne passe pas inaperçu, pardon. Entre robe fendue façon Resident Evil, body Lara Croft et même une robe inspirée des sacs de couchage des LAN parties durant jusqu'au bout de la nuit, est-ce une consécration pour les modos Discord ? Peut-être. En tout cas, si vous avez passé des nuits blanches sur League of Legends, sachez que votre style est désormais validé sur les podiums. Et pour finir, parlons climat. Face à un réchauffement de 4 degrés, le gouvernement a enfin un plan d'adaptation. Des protections pour les travailleurs en canicule, des études pour protéger le Mont-Saint-Michel et même un petit budget pour les collectivités. Ce serait presque rassurant si le plan n'avait pas un léger détail. Personne ne sait comment il sera financé. Bref, on s'adapte, mais à vue. Voili voilou, un flash info plein de joie et de bonne humeur, comme toujours.
Merci beaucoup Gaël pour ce condensé de l'actu du jour et on va faire une pause musicale tout de suite.
Polvo que me lleva al cielo, nota de humo en el viento. Chama, me gusta tu acento, no te calles que me ven, que me ven. Que me ven, fuma porro, bebe chorro, traga, lo estoy mojada, siempre quiero, siempre quiero.
c'était Chama de Arka et Tokisha. Et tout de suite, on va passer à la chronique actu.
La matinale de 19h.
Du coup, Fabien, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh ben bonjour, on va commencer tout de suite, on va partir à Landerneau, excusez-moi, où il y a une troisième tentative de battre le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Ce sera le 17 mai 2025 et c'est une proposition de Paramount Pictures France pour la sortie des Schtroumpfs, le film, qui a déclenché ce choix. Leur objectif, c'est donc d'inscrire enfin leur nom dans le Guinness des records. Le défi n'est pas abandonné, le troisième rassemblement de Schtroumpfs organisé par l'association aura lieu le samedi 27 mai et il faudra rassembler plus de 2763 schtroumpfs pour obtenir la place dans le Guinness des records. L'événement, qui souhaite avoir un rayonnement national voire mondial, pourrait même attirer jusqu'à 6000 personnes, histoire de ne pas faire schtroumpfer la place une nouvelle fois. La tentative sera lancée officiellement à 19h, mais des food trucks et un DJ sont prévus sur place jusqu'à 21h pour assurer une soirée festive. Tout sera gratuit, à l'exception des consommations. Le public tout double vêtu pourra même voir débarquer un doubleur des schtroumpfs, le film qui sortira au cinéma le 16 juillet. Et si vous voulez, vous pouvez vous y inscrire. Et puis, c'est une femme en fauteuil roulant qui a bien failli semer des policiers lors d'une course-poursuite surréaliste. Une voiture de police poursuit une femme en fauteuil roulant électrique. Celle-ci est sortie d'un parking et s'est engagée rapidement sur la route. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la conductrice a donné du fil à retordre aux policiers. Elle a réussi à échapper aux forces de l'ordre à 3 reprises. Il faut dire qu'elle n'a pas hésité à emprunter le trottoir pour leur mettre des bâtons dans les roues. Cette femme âgée de 33 ans a été prise en flagrant délit de vol donc dans un centre commercial de la ville. Une patrouille de police a été dépêchée sur les lieux pour l'interpeller, mais la suspecte s'est empressée de prendre la fuite. De son côté, la police du Yorkshire Sud a expliqué que l'auteur des faits avait dérobé des marchandises de grande valeur. La trentenaire a finalement été arrêtée et les objets ont été récupérés. Et enfin, en Espagne, 3 agents de police ont dû être hospitalisés après avoir mangé des bonbons trouvés au commissariat. Ils étaient en réalité aromatisés à la drogue. Ils se sont sentis tellement mal qu'ils sont directement allés aux urgences. Le sac de bonbons avait tout simplement été oublié par des collègues qui venaient d'effectuer une persécution dans un coffee shop une semaine auparavant. En Espagne, des clubs privés associatifs appelés les cannabis clubs existent dans certaines provinces où il est possible d'acheter et de fumer du cannabis légalement, mais ces clubs font souvent l'objet d'une surveillance particulière pour les autorités. Durant la perquisition, ils ont donc saisi plusieurs objets et substances, dont ces bonbons qui étaient en vente. Toutes les preuves ont été étiquetées et mises sous scellé, à l'exception d'un seul sachet, visiblement oublié et laissé quelque part dans le commissariat. Une erreur qui a donc valu un séjour hospitalier de quelques heures aux 3 agents de police qui ont dû subir un lavage d'estomac pour se remettre dans leur intoxication. Et enfin, pour terminer, dès les premières lueurs du jour, le coq pousse la chansonnette. Si certains sont indifférents à ses vocalises champêtres, d'autres s'en amusent. Et puis, il y a ceux qui ne les supportent pas du tout. C'est le cas d'un habitant de Pézenas, qui, excédé par ses concerts matinaux, a décidé d'alerter les forces de l'ordre. Il a ainsi appelé la gendarmerie dimanche matin pour demander une intervention d'urgence. Si la gendarmerie n'intervient pas pour un coq un peu trop expressif, certains conflits liés aux nuisances sonores des coqs se terminent parfois devant la justice. La commune de Pézenas a déjà enregistré des plaintes pour chants intempestifs, mais elle n'a pas été sollicitée pour ce cas précis.
Merci beaucoup Fabien pour cette chronique insolite et tout de suite on va passer au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Cette semaine, Éléonore reçoit pour sa première interview Mélina et Valentine, donc respectivement présidente et rédac chef du journal étudiant La Gazelle qui fête ses 10 ans.
Bonsoir Valentine, bonsoir Mélina.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous fêtez donc les 10 ans du premier quotidien étudiant interuniversité, donc La Gazelle. Et vous nous conviez, enfin je ne suis pas sûre parce que je crois qu'il n'y a plus de place, le 21 mars à l'impasse, à la Césure, à partir de 19h. Et vous nous dévoilez aussi un nouveau numéro hors série. Voilà, bonsoir et bienvenue à toutes les deux.
Merci. Merci.
Donc, vu que cette année, vous fêtez la première décennie de votre beau bébé, c'est le premier quotidien interuniversitaire de Paris. Et il réunit donc des étudiants de la Sorbonne Université, l'ENS et de l'INELCO. À ce qu'on voit sur votre page, il y en a pour tous les goûts. Il y a des rubriques comme culture, société, diplomatie, fiction, politique, même science. Ça ressemble vraiment à un média presse traditionnel, c'est très très complet. Et vous avez votre dernier numéro donc, qui s'appelle Obsession, qui est je crois déjà disponible sur les campus et dans une librairie de Abbey Bookshop dans le quartier latin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce dernier numéro pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas eu la possibilité de le consulter en ligne, qu'on n'a pas encore trouvé et qui n'ont pas pu se rendre sur les campus ?
Oui, tout à fait. Donc chaque numéro, en fait, a pour volonté de s'associer à un thème. Donc le dernier thème en question était obsession. Et en fait, l'idée, c'est de s'approprier de près ou de loin le thème. Et donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, Valentine, tu peux citer quelques articles qu'on peut retrouver ?
Oui, alors notamment dans la rubrique que je dirige, qui est la rubrique politique, on a eu des articles sur le nationalisme de Trump, par exemple. On a eu également des obsessions dans le cinéma avec le Demi-Monde, écrit par Carlotta. On a eu également des fictions sur les obsessions des pensées, sur les fluctuations, sur tout un tas de choses, quoi.
Ok, et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être les débuts et les motivations de créer La Gazelle ? Parce que du coup, si on fait des petites recherches, il y a eu quelques années après La Gazelle, Alter Mata, un autre journal interuniversitaire, mais qui regroupe beaucoup moins de thématiques et de rubriques et qui est peut-être un petit peu plus focus sur les sciences. Et d'où est venue cette idée de rassembler donc plusieurs disciplines et plusieurs universités ? Et aussi, concrètement, comment on fait cohabiter tout ce petit monde ?
On va essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, tout d'abord, pour rappeler vraiment la genèse de La Gazelle, en fait, c'était de revenir à des valeurs plus traditionnelles du journalisme, à savoir mettre en avant la presse écrite avec cet objet esthétique qui est l'objet papier, le journal qu'on peut saisir dans ses mains, ce qui n'est pas le cas de tous les journaux étudiants, puisque dans la plupart, comme Alma Mater, sont des journaux numériques qu'on peut retrouver sur Internet. Et donc, la volonté première, c'était de se réapproprier le papier et aussi de rassembler tous les étudiants. En fait, à la base, c'était des étudiants de Sciences Po et de Sorbonne Université. Avec les années, ça a rassemblé des étudiants de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, de Sorbonne Nouvelle. Donc, ce qui permet de vraiment abolir toutes les frontières universitaires et créer des rencontres. Donc, comme ça a été souligné, il y a différentes rubriques qui cohabitent entre elles. Et justement, il y a vraiment une transversalité au sein du journal. Et il y a toutes ces passions qui existent par la rédaction. Et nous, notre objectif, c'est de donner la voix à tous ces étudiants, parce que c'est fait par et pour les étudiants, qui puissent avoir une sorte de tremplin pour se former au métier du journaliste, parce que nous, on est là avant tout pour les accompagner.
Et Mélina a d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer les fondateurs et fondatrices de La Gazelle pour le numéro des 10 ans qui va sortir du coup. Donc vous aurez l'occasion de lire cette interview
dans l'édito
du numéro qui sortira du coup pour les 10 ans le 21 mars.
Ok, qui sera en ligne pour tout le monde dès le 21.
Qui sera d'abord distribué sur les campus gratuitement. On a décidé de faire un numéro spécial gratuit pour permettre plus d'accessibilité pour les étudiants et les étudiantes. Et après, qui sera mis en ligne plus tard, en fait, parce qu'on désire tout d'abord, comme l'a dit Mélina, avoir une version papier A3, en fait, vraiment comme pour les premiers temps de la presse. Et ensuite, du coup, pour plus d'accessibilité, quelques mois après, souvent c'est 2 mois après, on met en fait le numéro en ligne, quoi.
Et je voulais revenir sur ce hors-série où justement on veut vraiment mettre en avant les valeurs de la liberté d'expression et aussi la mémoire, se rappeler il y a 10 ans, parce que ça a été fondé en janvier 2015. Et en janvier 2015 a eu lieu notamment les attentats de Charlie Hebdo. Donc il y a une forte symbolique dans cet événement et c'est ce qui nous tient à cœur à travers le 21 mars, à travers cette soirée, un peu ce renouveau.
Oui, et puis on aimerait beaucoup donner aussi encore plus de voix aux autres étudiants et aux autres étudiantes dans le futur. Il y aura notamment des articles sur l'importance de la presse étudiante pour la politique étudiante et pour la politisation des étudiants et des étudiantes dans ce numéro.
Voilà, il sera très politique au prochain numéro.
Oui, c'est le but du numéro, c'est qu'il soit extrêmement politique.
Je voulais faire une petite aparté pour aussi parler des coûts et des financements, parce que c'est comme ça qu'un journal voit le jour et peut voir la suite. Donc chaque numéro, il me semble, est au prix de 2 euros. Ça reste quand même relativement abordable pour un journal tirage papier avec près de 5 numéros par an. Et du coup, je voulais savoir quel rôle joue par exemple le CROUS, la société, comment ça s'organise? Est-ce que c'est lié à des fonds de subvention qui pourraient être impactés par exemple par les budgets en énorme baisse dans toutes les facs et pas que à la Sorbonne ou à l'ENS, mais qui vraiment s'étend au-delà des frontières? Voilà.
Alors, c'est une question très épineuse justement parce qu'on est un journal associatif, donc on est subventionné par les universités. Donc on le vend au prix symbolique de 2 euros, comme ça a été mentionné, puisqu'on veut accorder une importance et une valeur au papier, au journal et ce qu'on va lire, et être sûr que les étudiants et étudiantes vont le considérer comme tel, puisqu'il y a eu beaucoup d'investissements. On passe presque 3 mois sur un numéro, enfin à peu près, puisqu'il y en a 5 par an. Et justement, ces dernières années, on a eu quelques... les universités accordent moins facilement leur argent, les dossiers sont de plus en plus sélectifs, il y a de plus en plus de justificatifs qui sont donnés. Enfin, vraiment, tous les budgets sont très, très surveillés. Et nous, on essaye d'être le plus transparent possible là-dessus. Donc, on a de la chance d'être interuniversitaire, donc être financé à la fois par l'université, mais aussi par le CROUS et la Maison des Initiatives Étudiantes. Donc, okay. On les remercie de soutenir nos projets, parce que sans eux, on ne pourrait pas imprimer autant de journaux.
Et donc, par rapport à ça, est-ce que ça impacte aussi votre ligne éditoriale et... la publication de certains articles, par exemple, d'actualité?
Non, pas vraiment, parce que la Gazelle se veut être apartisane, donc ne pas avoir de ligne politique propre. On n'est pas du tout une tribune politique pour quelque parti qui soit. Alors bien évidemment, les propos d'extrême droite ne sont pas acceptés au sein de notre journal, mais en fait, on a une totale liberté dans ce qu'on imprime en fait dans notre journal et dans le contenu des articles. Les facs, je pense, lisent nos journaux, mais ne contrôlent absolument pas ce qu'on publie. Et de plus, on essaye de publier une pluralité de voix politiques. Et d'ailleurs, la majorité des journaux étudiants sont des journaux qui sont apolitiques, et notamment des journaux culturels. On pourrait ouvrir le débat sur le fait que la culture légitime est une forme de politique, mais globalement, on essaye d'avoir une pluralité de voix pour essayer de rester neutre et pour aussi avoir une plus grande quantité de lecteurs et de lectrices. Parce que c'est vrai que quand on fait les distributions à la criée, ça peut rebuter certains et certaines. Certains sujets peuvent rebuter des gens, ce qui est complètement compréhensible. Mais du coup, voilà.
Oui, les universités regardent nos budgets, pas ce qu'on écrit.
Voilà, exactement.
Merci pour cette super réponse. Et pour éclairer un petit peu plus ceux qui nous écoutent, vous êtes présents un petit peu partout, au four et au moulin, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta, en ligne, dans les librairies, dans les campus, déjà où vous n'êtes pas. Et ensuite, on remarque quand même que petit à petit, la Gazelle s'étend. Vous avez fait des tables rondes, des cycles de conférences. Il y a eu 2 épisodes, il me semble, d'un format podcast qui vient de sortir il n'y a pas longtemps et donc qui reprend pour contexte le dernier numéro, il me semble, et qui explore des thématiques qui ne peuvent pas avec la limitation des mots en ligne et à l'écrit. Et donc vous développez ces thématiques-là. Et vous avez aussi organisé récemment un ciné-club. Moi, je voulais savoir, est-ce que ça représente l'extension des médiums pour le journal La Gazelle, ou est-ce que c'est aussi un moyen de s'adapter et d'aller chercher le lecteur là où il est, d'aller le piocher? Est-ce que, quand on est un journal étudiant, c'est compliqué d'aller chercher le lecteur parce que maintenant, on est un petit peu surconnecté, on est greffé... à tout ce qui est en ligne, et comment on peut renouer et faire vivre aussi ce journal pour briser un petit peu la relation qui peut se faire par le papier, parfois trop.
Alors justement, il y a plusieurs réponses à cette question. Donc tout d'abord, il y a évidemment une volonté de s'adapter, de diversifier les formats. Donc comme ça a été dit, on a relancé le pôle conférence qui est un peu mort après 2020, après le confinement. On fait des ciné-clubs et là, on essaye de tenter des formats podcast. Et en fait, l'idée, c'est d'exploiter ce qu'on ne peut pas faire sur le format papier à travers les podcasts, les conférences, et c'est aussi avant tout une association. Donc une association, ça se veut être un lieu de vie, et c'est à travers les conférences, les soirées qu'on peut organiser, qu'on va tous pouvoir se rassembler et exister à travers la communauté de la Gazelle. Donc c'est par ces événements, donc je trouve que c'est vraiment très important, et moi j'adore organiser toutes ces conférences, ces tables rondes, et par exemple on a fait une table ronde sur les métiers de l'édition, et ça a ramené énormément d'étudiants et étudiantes qui en fait étaient très intéressés par ces métiers qui sont un peu obscurs et un peu inaccessibles.
Et à cette occasion, je crois qu'il y avait plusieurs maisons d'édition,
oui.
Hermann, Folio, peut-être Gallimard, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça représente aussi, peut-être pas forcément un intérêt, mais une perspective de mise en situation professionnelle pour les membres de la Gazelle?
Ah, mais
de peut-être mettre un pied là-dedans.
Tout à fait, en fait, c'est une première expérience journalistique. Et je pense par exemple à Augustin, qui était l'un des premiers rédacteurs en chef, qui en fait s'est formé à travers la Gazelle et qui maintenant est éditeur depuis presque 8 ans et qui en fait n'a pas fait de formation dans l'édition. Et grâce à la Gazelle, est devenu éditeur. Il y a plein de personnes qui sont devenues journalistes sans avoir de master de journaliste. Donc c'est vraiment une expérience, avant tout c'est une passion, mais c'est aussi une expérience professionnelle.
Oui, oui, notamment l'ancien directeur Alexandre est rédacteur chez Philo Magazine maintenant. Donc ça permet vraiment d'ouvrir des portes, comme disait Mélina. Et c'est vrai que la rigueur journalistique est très importante au sein de la Gazelle. Et on essaye d'être vraiment très rigoureuse et très sérieux, très sérieuse. On est associatif, mais on a à cœur de bien faire les choses et de vraiment apprendre à nos rédacteurs, rédactrices et à nous-mêmes le milieu du journalisme, comment se passe une publication. Et à vraiment être une première expérience et un premier tremplin sérieux pour des gens qui souhaitent être journalistes.
Bah, bravo à eux, bravo à vous de leur donner cette chance, parce que c'est pas facile, surtout pour ce genre de formation. Peut-être une petite dernière question, si on a le temps. Vous parlez, pour définir la Gazelle, de journalisme d'idées. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de ce que ça représente et en quoi c'est une empreinte forte pour la Gazelle?
En fait, le but, c'est qu'on écrive des articles déjà qui soient des articles de réflexion, plus que des articles d'actualité. Il y a déjà beaucoup de journaux et de quotidiens qui basent en fait leur ligne éditoriale sur de l'actualité, ce qui est très important en effet. La Gazelle se veut être un laboratoire en fait de réflexion étudiante. Et le but, c'est vraiment de faire émerger des idées, des revendications et de faire émerger en fait les voix des étudiants et des étudiantes par peut-être des choses plus recherchées, avec des références poussées, avec notamment, on est très rigoureux sur les notes de bas de page par exemple. On essaie vraiment d'avoir une réflexion et d'avoir une réflexion profonde en fait sur ce qu'on écrit et d'avoir quelque chose d'innovant.
C'est vraiment le critère premier. Quand on recrute quelqu'un, c'est la réflexion qui est menée derrière. La forme est importante, évidemment, mais le fond l'est tout autant.
Oui. Ok, donc est-ce qu'on peut parler de journalisme de solution?
Moi, je préfère journaliste d'idées.
Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose pour le futur de la Gazelle ou des nouvelles initiatives, des nouveaux projets?
Bah déjà que la Gazelle continue de vivre,
oui.
C'est en juin, ça va être la fin de notre mandat avec Mélina. Donc le futur de la Gazelle est en question.
Okay,
la Gazelle a toujours existé. On essaie de recruter, notamment s'il y a des auditeurs, auditrices qui souhaitent rejoindre la Gazelle, n'hésitez pas. Donc déjà, faire continuer à vivre la Gazelle, faire continuer... permettra au pôle podcast et au pôle conférence de continuer de se développer. Et puis... je pense que c'est
de garder notre ligne éditoriale tout en se diversifiant.
Voilà, on vous le souhaite.
Merci
Mélina beaucoup. Merci Valentine.
Merci beaucoup Mélina et Valentine d'avoir été avec nous. On rappelle que vous faites partie du journal étudiant La Gazelle. Merci Éléonore pour cette chouette interview. Et tout de suite, on va faire une ultime pause musicale.
Pour moi, tout est gratuit, ça fait plaisir. J'adore voler à la pharmacie. Du caudalie et du ducré, c'est mon élément, j'adore ma vie. J't'assure mon frère, nouvelle galère. J'suis déstressé quand j'ai volé. Quand je vole pas, j'suis angoissé. Et les vigiles se mettent
en gain. Des arcs avec des flèches et du bon vin. Du miel AOP, du lubrifiant certifié. Des pantalons skate tombés du camion volé. J'assume piqué, je suis un renard shipper. Je suis pas un rat, je suis juste un petit voleur. Un petit filou qui ne gagne pas assez de sous. J'attends ton héritage une fois que tu seras mis dans un trou. Des frousses d'épinards et des cordes de guitare. De la mozzarella di Buffalo. Des rouges à lèvres, Givenchy pour ma chérie. Une poêle à monoprix pour faire des raviolis. J't'assure mon frère, nouvelle galère. J'suis déstressé quand j'ai volé. Quand je vole pas, j'suis angoissé. Et les vigiles se mettent à me fouiller. Pour moi tout est gratuit, ça fait plaisir. J'adore voler à la pharmacie.
C'était Content Fernand de Voleur.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et on va finir cette très sympathique matinale avec la chronique humoristique de Simon. Bonsoir Simon.
Tu peux faire attention quand tu tends le bras pour lever les sons, parce que là c'était un peu, c'est limite. bonsoir mesdames et messieurs dames. Salut Delila. Alors t'as arrêté de faire des chansons ou quoi? Non, c'est parce que tu t'es rendu compte que ta plus grande fan c'était Marine Le Pen. Ah, ça la fout mal hein. Encore facho. Toujours facho, les mêmes fachos. Ou alors t'as arrêté les chansons parce que tu as un projet plus grand. Tellement grand que sa réalisation ne peut pas tenir dans de simples do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ou alors tu as pensé au départ à mettre ce projet dans ton nouvel album qui se serait sobrement intitulé Le nouvel album de Delila. Mais c'était sans compter le fa qu'on peut retrouver dans le do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais ce même fa qu'on peut aussi retrouver dans Farandole ou plus encore dans Facho. Ce qui t'a amené à laisser tomber l'idée de mettre ton projet qui ne tiendrait de toute façon pas dans de la musique. Parce que oui, on le sait tous ici, mais depuis que tu as arrêté la musique, Delila, tu as de plus grandes aquarelles. Non, de nouveaux... T'as des grands croquis... Des nouveaux dessins. Un nouveau dessin... Tu projettes de créer ta propre ville, Delila. On le sait. Mais comme ton petit frère a déjà réussi à faire appeler une ville Orlando, tu t'es reporté sur un nom plus grand que mature. Tu appelleras ta ville New Delila. Au centre de laquelle tu érigeras une statue de toi-même, juste en face de la mairie Delila. Et ce sera le paradis. Parce que New Delila sera un modèle en termes de lutte et d'adaptation au réchauffement climatique. Contrairement à la France, dont le ministère de la transition écologique vient de publier son plan d'adaptation. Cette transition vous a été présentée par Transition 2000. Transition 2000, c'est 2000 transitions conçues par des scientifiques américains qui se faisaient un peu chier après avoir fait leur subvention supprimée par Trump. 2000 transitions faites pour passer du coq à l'âne, mais aussi du coq au vin ou encore du coq en pâte. Et tout autre passage d'un état à un autre nécessitant l'aide de Transition 2000. Attention, ne pas associer avec du paracétamol, voire conditions générales de vente sur transition2000.com. Et oui, c'est le plan national d'adaptation au réchauffement climatique qui a été présenté par Agnès Pannier-Piano, la ministre de la Transition écologique. Et il était extrêmement attendu puisqu'il a été reporté plusieurs fois depuis fin 2023, rapporte Reporter. Et on n'a pas attendu pour rien, hein, puisque ce plan d'adaptation est largement à la hauteur de l'enjeu climatique, soit à l'image du virage écologique d'Emmanuel Macron, ce visionnaire du climat, tellement visionnaire que ce plan d'adaptation au changement climatique est littéralement parfait. J'aurais dû faire comique. Non, parce que le même article de Reporter à ce propos déplore quand même assez peu d'ajustements par rapport aux versions précédentes qui avaient été mises en suspens. Surtout que déjà, c'est pas suffisant, même à la fin, même après les ajustements. C'est comme si un couple invitait des amis à manger, que l'une dirait « Non, mais juste des pâtes au dîner, c'est pas suffisant » et que deux jours après, elle reviendrait demander « C'est bon, t'as peaufiné le menu ?» et que l'autre répondrait « Ah ben comment ? Je vais rajouter de l'huile d'olive !» Et du coup, ça arrive un peu à plat, quoi. Surtout que ça laisse un sentiment un peu doux-amer, parce que c'est le seul truc un peu significatif quand même qui est envisagé sur le changement climatique, et c'est même pas pour lutter contre, c'est pour s'y adapter. Alors que pour s'adapter, les bourgeois oisent, hein, y a du monde, hein. Applaudir Macron quand il préfigure une cure d'austérité pour l'effort de guerre, oui. En revanche, l'effort de clim, y a plus personne. C'est vraiment terrible. L'effort de golf aussi. Ce qui veut pas dire qu'il ne faut pas s'adapter au changement climatique, ne serait-ce que pour les chèvres des Alpes qui restrécissent à mesure que la région se réchauffe. C'est une vraie anecdote. Donc s'adapter, on ne va pas avoir le choix. Mais juste, ça veut dire que le peu qu'on fait pour le climat et le vivant, c'est juste s'adapter. Ça fait un peu défaitiste. C'est comme si pendant le Covid, on avait dit allez, on veut des vaccins, et qu'au lieu de ça, Pfizer avait dit non mais vous inquiétez pas, on a des super soins palliatifs engagés. Ça me fait penser que soins palliatifs, c'est un super salon de coiffure de New Delhi-là, juste à côté de la pizzeria Gigi Lamoroso. Du coup, je vous laisse, j'y fonce me faire les pointes. Et entre le shampoing et le soin pour les cheveux, écoutez ceci. À trop vouloir mal s'adapter, n'oublions pas de continuer de lutter. Cette conclusion vous est présentée par Conclusion 2000. Conclusion 2000, la seule agence pour vous aider à conclure des chroniques engagées, mais aussi des chroniques en calcité ou encore des chroniques embuées. Ne pas mettre dans un grille-pain.
Merci beaucoup pour cette chronique, Simon. Je pense que Emmanuel Macron doit se sentir bien habillé. Tu lui as taillé un costard. C'est déjà la fin de cette matinale de 19h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Pablo à la Réal. Merci Francesca pour l'interview. Merci Gaël pour ton sémillant flash info. Et merci Simon et Fabien pour vos chroniques respectives. Merci également à Eleonore pour le Zoom. Restez à l'écoute. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Campus Paris.